justement, même psychiquement, il me paraît que le maman, lui-même, n'est pas suffisamment du cri. Non,
Pardon
c'est
de
pas.
rire comme ça, et oui, et oui, et oui. Mais encore une fois, on en est à un programme, hein.
Non, je
Moi, je
parle
fais
pas de
mon
toi du
programme.
tout.
Ah
Non,
bon?
je parle justement des
En
rêveurs.
général?
En général,
Ben,
parfois.
c'est pas une pensée en général, on peut compter ceux qui l'ont cette pensée. Jaspers ou Blanchot, Foucault. Trois. Alors, c'est pas. Je crois que Foucault a beaucoup avancé par rapport à Blanchot, mais l'œuvre de Foucault a donc été interrompue. Qu'est-ce que cette œuvre, dans quel sens elle se serait développée? Personne ne peut le dire. Oui.
Oui, je voudrais un peu expliquer ce que j'entends sur le mot conférence. Et d'un doute très général, je pourrais vous dire que conférence, c'était un homme, par exemple, Ulysse. Il conquérait des villes dans le monde grec. Mais il y a aussi d'autres types d'hommes conquérants. Vous, par exemple, un philosophe, c'est un conquérant du savoir. Voilà, ça
Je
c'est
comprends, il y a un
élargi.
livre, je crois, il y a un très beau
Ça
livre
élargit
d'Elifort, hein, sur les conquérants.
Oui, mais ça élargit
Et,
un peu l'essence que je veux dire quand je dis que
ouais.
l'homme, même s'il
Je
est
comprends,
fatigué
ouais.
aujourd'hui, même s'il n'y a pas
Ouais,
je ne me rappelle pas,
non, je
il
comprends,
continuait à avoir quelque chose en soi, même jusqu'à sa mort, qui va le maintenir. Et je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ma
tout
note.
à fait. Tout à fait. Ce que vous appelez un conquérant, moi j'appellerais ça un vivant, oui. Ou un voyant, oui. Oui. Oui, alors là, je me sentirais tout à fait de votre avis, oui. Oui. Alors, écoutez, on va pas traîner longtemps. Je vais aller. Puis le troisième aspect de la pensée du dehors, je disais, c'est la montée des interstices. Alors, chez les différents auteurs, vous trouvez ça, vous trouvez des noms différents, oui, intervalle, interstice, Barthes a employé beaucoup de mots pour désigner cette chose bizarre dont nous allons parler. Chez Blanchot, un des livres fondamentaux sur tout ce dont nous parlons, là, sur la pensée du dehors, c'est son livre intitulé L'entretien infini. Et page 107 suivante, il a un chapitre qu'il intitule L'interruption. Et je résume très grossièrement. Il dit, ben voilà, vous comprenez. Tout discours passe par des interruptions ou des intermittences. Ne serait-ce que, moi je le dis, le dis pas, mais y compris le monologue, et même le monologue intérieur. Faut bien reprendre son souffle. Reprendre son souffle, je vois un bout de phrase splendide de Blanchot à cet égard. Tel silence, même désapprobateur, constitue la part motrice du discours. C'est le schéma sensorimoteur. Voyez la part motrice du discours. Je parle et je reprends mon souffle, c'est la part motrice du discours. Il y a un intervalle. Et puis, lorsque la parole n'est pas monologue, mais lorsqu'elle est dialogue, il y a des intervalles. Intervalle de quelle sorte? Intervalle, dit Blanchot dans ce texte qui est très bien, il dit il y a deux sortes d'intervalles bien connus. C'est chacun son tour de parler. C'est chacun son tour de parler, mais ça peut être de deux manières très différentes. Donc c'est deux types d'intervalles. Chacun son tour de parler dans un dialogue, allez à toi de parler. Ça veut dire quoi? J'arrête, à toi de parler. Ou bien ça veut dire, nous parlons tour à tour parce que chacun de nous a un point de vue sur l'objet, Donc, l'intervalle est un intervalle entre deux points de vue sur le même objet, ou bien, là c'est l'intervalle de scientificité, on pourrait dire, hein. Moi la table elle me paraît blanche, ah ben non, moi je la vois jaune. Bon, intervalle de scientificité. Ou bien c'est un intervalle d'affectivité. À savoir, toi et moi, nous cherchons l'entente. À toi de parler. Et puis même si on ne cherche pas l'entente, ça peut être un intervalle d'affectivité. Alors, tu vas parler, oui, bon. Ça peut être un intervalle qui a pour but l'union des deux en une seule et même conscience, l'intervalle amoureux. Bon. Et Blanchot, il analyse tout ça très bien, il dit, mais voilà, il y a un troisième intervalle. Et il dit, et celui-là, il est tellement difficile, je ne sais pas, parce qu'il est d'autant plus difficile qu'il est toujours mêlé à l'autre. Exactement comme la pensée du dehors, il est toujours mêlé à la pensée classique. Il y a un troisième intervalle. Et Blanchot dit, il ne s'agit plus de s'exprimer d'une manière intermittente. Il ne s'agit plus de s'exprimer d'une manière intermittente, mais de donner la parole à l'intermittence. Non. Non plus s'exprimer d'une manière intermittente, mais donner la parole à l'intermittence, parole non unifiante. Dans les autres cas, on voulait unifier. Parole non unifiante, acceptant de n'être plus un passage ou un pont, parole non pontifiante, c'est un jeu de mots, hein? Parole non pontifiante, capable de franchir les deux rives que sépare l'abîme sans le combler et sans les réunir. Vous reconnaissez pur style Blanchot, ceux qui ont déjà lu du Blanchot, c'est signé Blanchot. Bon, j'essaie de traduire, pas du tout que ce soit insuffisant, mais j'essaie de traduire dans notre problème, donc. Je dirais, vous voyez, il y a toujours interstice. Seulement, en effet, il y a deux types d'interstice. Tantôt, l'interstice, c'est le minimum nécessaire pour que deux idées ou deux images s'associent, ou deux personnes. Pour que deux idées, deux images, deux personnes s'associent. C'est-à-dire l'interstice, c'est le vide que les images doivent sauter pour le combler. Entre deux images, il y a un interstice, et sans cet interstice, il n'y aurait pas d'association des images. Donc je dis dans ce cas, l'interstice est subordonné à l'association. C'est le minimum de vide qu'il faut pour qu'une association se déploie. Subordination de l'interstice à l'association des images. Vous voyez? Dans l'autre cas, ce cas mystérieux dont nous parle Blanchot, il ne s'agit pas de s'exprimer d'une manière intermittente, mais de donner la parole à l'intermittence. Je dirais, on ne sait pas encore où ça nous mène, je dirais que c'est le contraire. Là, ça ne va plus être l'association des images qui va compter. Chaque image, et vous sentez à quel point c'est lié à tout ce qu'on vient de dire depuis des séances entières, chaque image sort du vide et retombe dans le vide. Chaque image sort du vide et retombe dans le vide. Rupture de l'association. autant dire rupture, il l'appelait de la part sensorimotrice du discours. Rupture de la chaîne sensorimotrice, rupture des associations. L'intervalle se manifeste pour lui-même et se subordonne ce qui reste d'association. Car bien sûr, il faut bien vivre. Bon, cette fois-ci, la formule de ce second interstice, vous voyez que c'est tout simple, c'est juste la formule inverse de celle de tout à l'heure, subordination des associations subsistantes à l'interstice. L'interstice se met à valoir pour lui-même. Chaque image, l'interstice n'est plus le minimum de différence qu'il faut pour que deux images s'associent en sautant par-dessus. Il se met à valoir pour lui-même et se subordonne toute association. L'image sort du vide et retourne dans le vide. Les interstices, dès lors, en ce second sens, est-ce qu'ils ne vont pas? Alors là, je pourrais prendre Blanchot, Roland Barthes, Foucault, à nouveau. Est-ce qu'ils vont pas, non pas du tout créer un style unique, mais jouer singulièrement même dans ce qui nous fait reconnaître chacun de ces trois styles-là? Est-ce que ça ne va pas être un art des interstices, qui a renoncé à l'associationnisme, qui s'est subordonné à l'association? Et interstices entre quoi et quoi? Interstices partout. Il y aura un grand interstice, comme si l'interstice, alors, entre les deux moitiés du cerveau, se mettait à valoir pour lui-même. Bon. Est-ce que ça engagerait les histoires de cerveau? Vous le savez d'avance, puisque on aura à voir le cerveau. Ça fait partie aussi de notre programme. Et ben. Interstice fondamental, d'abord, entre quoi et quoi? Blanchot ne cesse pas de le dire. Ça va être un thème fondamental de Blanchot, notamment dans l'entretien infini. L'interstice peut-être le plus important de tous les interstices, c'est entre parler et voir. Chapitre 3. Parler, ce n'est pas voir. Et c'est dans cet interstice entre parler et voir que se développe la pensée comme parlante et la pensée comme voyante, et l'interstice entre les deux. En quoi parler ce n'est pas voir, ça c'est bon. Pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de ce qu'on voit et qu'on ne voit jamais ce dont on parle? Bien. Ce thème, d'une toute autre manière, vous le trouvez très très fréquemment chez Barthes, vous le trouvez aussi chez Foucault, notamment développé dans le petit livre qu'il écrivait sur un écrivain, sur Raymond Roussel. Dans le Raymond Roussel de Foucault, vous trouvez une analyse de toutes les formes d'interstices sur lesquelles précisément jouait Raymond Roussel. On verra tout ça. Bon. Ce que je veux dire, c'est, voyez, ça nous donne une réponse immédiate. La pensée comme force du dehors se manifeste. Non plus par les associations. Elle se manifeste par et dans l'interstice. Et l'interstice, en même temps, c'est précisément ça, l'impensé. Donc tout s'enchaîne très bien. C'est... Je crois que toute cette mutation que j'essaie d'expliquer est très rigoureuse. C'est pas comme ça, il y a des enchaînements extrêmement profonds dans cette intuition ou dans cette nouvelle image de la pensée. Et non seulement interstice entre voir et parler, mais d'en voir tout court toutes sortes d'interstices et d'en parler tout court toutes sortes d'interstices. Les interstices ne cesseront d'essaimer, de se multiplier. Bon, alors cherchons toujours. Du coup, quelque chose s'impose. Quelque chose s'impose dans nos allers-retours, dans nos promenades philosophie et cinéma. Moi, je crois qu'il y a eu quand même, entre le cinéma dit classique et le cinéma dit moderne, quelque chose d'évident, quoi, d'évident. Au point qu'il faudra l'analyser de très près, mais là, je voudrais juste l'indiquer en gros. Ce quelque chose d'évident, c'est quoi ? C'est que dans le cinéma classique, on passe d'une image à une autre. Ça a l'air de rien, mais c'est pas rien. Parce que dans le cinéma classique, dans le grand cinéma d'avant-guerre, on retrouvera en plein le problème de l'association des images. Et sous quelle forme ? Et le problème de l'association des images, c'est pas rien, puisqu'il anime ce qu'on a toujours appelé le montage. Or, pour monter, pour associer des images, pour passer d'une image à une autre, là, il faut des interstices. Et l'art des interstices, par exemple chez Eisenstein, est déjà poussé à un point, on verra, y compris sous la forme du faux raccord. Bien. Ça n'empêche pas, je suggère, quitte ça, je ne prétends pas du tout le justifier pour le moment. Je le justifierai que plus tard. Mon hypothèse est que, dans ce grand cinéma classique d'avant-guerre, l'interstice, si fort qu'en soit développé l'art, est subordonné à l'association des images. C'est le moyen de passer d'une image à une autre, y compris avec le faux raccord. Il y a subordination de l'interstice à toutes les aventures de l'association des images. Et comme preuve, j'en voudrais juste ceci, c'est que si vous concevez deux séries d'images, vous avez un problème. Si vous me suivez bien, vous devez sentir venir les mathématiques. Si vous prenez deux séries d'images et une coupure entre les deux, je dirais que dans le cinéma classique, la coupure fait partie ou bien de la série précédente, dont elle est le dernier terme, ou bien de la série suivante, dont elle est le premier terme. C'est évident, par exemple, dans les cas de fondu. Quand ça opère par fondu enchaîné, ou par fondu au noir. Alors ça, j'y vois déjà le signe, quitte, prenez-le comme ça, hein. Je dis juste, il y a déjà tous les types d'interstices que vous voulez. Dans ce cinéma classique, il reste subordonné. Peut-être, hein, on va mettre un peut-être, comme ça j'évite toute objection, peut-être reste-t-il subordonné à l'art d'associer les images. C'est le vide nécessaire que les images doivent franchir pour s'associer. Si bien que la règle, ce sera que l'interstice appartient à lui-même. Soit aux images précédentes, soit aux images suivantes. Dans le cinéma d'après-guerre, il y a quelque chose qui éclate. C'est l'importance que prend chez beaucoup d'auteurs l'écran blanc ou l'écran noir. Alors ça, c'est la grosse évidence, quoi. Et leurs variations. Je veux dire, il y a des variations multiples. Là, il faudrait être très savant, chercher les dates, qui a fait des films. Est-ce que c'est le cinéma expérimental qui a commencé à faire des variations avec écran noir et écran blanc? Est-ce que ce ne serait pas le cinéma expérimental? Est-ce que ça aurait été utilisé par d'autres? Ça, je ne sais pas. Vraisemblablement, je suppose que c'est le cinéma expérimental. Il y a une page très belle dans Praxis du cinéma de Noël Birch, où Birch explique ceci. Il dit, oui, c'est que dans le cinéma d'après-guerre, là il rejoint tout à fait notre thème, ou plutôt c'est nous qui le rejoignons, il dit, la coupure n'a plus valeur de ponctuation, de simple ponctuation. Ponctuation, ça correspond exactement à ce que je disais lorsque l'interstice est subordonné à l'association des images. Là, la coupure a une valeur de ponctuation, hein, une virgule entre deux images. Et il dit, dans son langage à lui, avec la valorisation de l'écran noir ou de l'écran blanc, la coupure prend une valeur structurale. C'est-à-dire que l'image n'entre plus en rapport, c'est parfait pour nous, l'image n'entre plus en rapport avec d'autres images, ce qui est l'association, elle entre en rapport avec l'absence d'image. Là, on sent qu'on est en plein dans ce qu'on cherche. Alors, ça peut être l'écran blanc, ça peut être l'écran noir, je disais, ou d'autres variétés. D'autres variétés de quel type? Eh bien, l'écran surexposé, l'écran sous-exposé, l'écran neigeux, l'écran plumeux. Vous connaissez par exemple, ceux qui connaissent ce cinéma, toute une série de variétés que Garel a exploitées, il me semble, d'une manière étonnante. Parce que chez Garel, c'est même plus la formule de Birch. Encore une fois, chez Garel, l'écran noir et l'écran blanc n'a même plus une valeur structurale, il prend une valeur génétique. Il prend une valeur génétique de l'image. Bon, mais je citais le dernier film de René. Trop évident que ceux qui l'ont vu se rappellent cet écran plumeux qui coïncide avec la musique et qui introduit des intervalles extrêmement calculés. Bien. Tu repens plus. Je dis, c'est une évidence que dans le cinéma moderne, ou dans une direction du cinéma moderne, on se trouve devant exactement le même événement que celui que je viens de raconter, au niveau de l'image de la pensée. À savoir, au lieu que l'interstice soit au service de l'association des images, l'interstice se met à valoir pour lui-même et se subordonne tout ce qui reste d'association, tout ce qui reste d'associatif. En d'autres termes, l'image est mise en rapport non plus avec l'autre image, avec l'image précédente ou suivante, mais avec l'absence d'image. C'est peut-être très important, ça. Parce que je dirais, à la limite, vous savez ce que ça veut dire, ça? Alors, bien plus, j'ajoute, parce que tout ça, on aura à le revoir de très près, mais je suppose que tous ceux parmi vous qui s'occupent de cinéma ont mis l'exemple dans la tête. Je dis, il n'y a pas besoin qu'il y ait un écran blanc et un écran noir qui durent un certain temps. Il y a un type d'interstice, c'est-à-dire de coupure entre images. Il y a un type d'interstice qui est même très rapide, c'est-à-dire un usage du faux raccord. Je ne dis pas le faux raccord tout seul, puisque le faux raccord, il pouvait être déjà dans la conception classique. Mais il y a une compréhension et un usage moderne du faux raccord qui en fait un interstice type, c'est-à-dire non plus quelque chose que les images doivent sauter pour s'associer, mais quelque chose qui vaut pour soi-même. Et ça peut être très court. Là. Il n'y a pas besoin de la durée écran blanc ou écran noir. Ça peut être très rapide. Invoquer l'interstice entre images pour briser l'association, c'est-à-dire pour briser cela même qu'il appelle. Et on voit bien ce qu'il veut dire par la chaîne. Sortir de la chaîne des images. On n'est pas des esclaves. Les images ne sont pas des esclaves. Vous reconnaissez le style, là, faut toujours. C'est du pur Gobain. On n'est pas à la chaîne. L'ancien cinéma, il était à la chaîne d'une certaine manière, même quand il était génial. Sortir de la chaîne des images. Ça veut dire quoi, sortir de la chaîne des images? C'est. Vous trouverez tout ça détaillé en long, en large, dans Ici et ailleurs. De Godard, dans le texte même du film, il y a tout le temps le thème. Les images sont esclaves les unes des autres et nous sommes esclaves des images, tant qu'elles sont à la chaîne. Et chez Godard, il va y avoir tantôt des interstices très longs, mais tantôt des interstices très rapides, avec un usage absolument nouveau, à mon avis, à cette époque, du faux raccord. Qui fait que se fait le renversement. L'interstice n'est plus au service de l'association des images. L'interstice se met à valoir pour lui-même et commande à tout ce qui peut subsister encore d'association, il ne subsiste plus grand-chose. Bon, c'est-à-dire, l'image doit sortir du vide et retomber dans le vide. Qui lui avait enseigné ça? Parce que là, les noms se pressent. Qui avait été le grand maître à cet égard? Je crois que le grand inventeur, c'était Bresson. Quel serait le film de Bresson qu'il montrerait le mieux? Au hasard, Balthazar. Peut-être, mais vous pouvez mettre d'autres noms. Mais que Bresson ait une influence fondamentale dans cette nouvelle conception de l'interstice, c'est évident. Or, comprenez que c'est très important, je dirais à la limite, il n'y a plus de hors-champ. Ça, on le verra plus tard, c'est foutu, il n'y a plus de hors-champ. Dans le cinéma moderne, il n'y a pas de hors-champ. Dès lors, c'est en sens qui prépare déjà la future image électronique, où il n'y en aura plus du tout, alors. Plus du tout, par définition, l'image électronique n'a pas de hors-champ. Elle est complètement réversible, elle n'a ni dedans ni dedans. Mais le hors-champ, c'est fini avec le cinéma moderne. Pourquoi que c'est fini? Pour une raison très simple, c'est que, comment dirais-je, ils n'ont pas découvert le parlant qui existait déjà, mais ils ont découvert, et là je vous renvoie au livre de Dominique Villain, l'œil à la caméra, ils ont découvert que la parole et les bruits en général étaient l'objet d'un cadrage. C'est-à-dire qu'il y a un cadrage visuel, qu'il y a un cadrage sonore, non moins qu'un cadrage visuel. D'où aussi la formule de Godard. Ce qui est important, c'est pas le montage, c'est le mixage. Il veut dire que c'est le mixage qui décide du montage. Ah bon, comme vous comprenez, bon. Tout est déplacé, parce que le son ne témoigne plus, ou n'a plus la possibilité de témoigner pour un non-vu constituant un hors-champ. J'entends un bruit dont je ne vois pas la source sur l'image. Non. C'est-à-dire, le hors-champ dans le cinéma classique, il est absolument indispensable au cinéma classique parce qu'il témoigne pour la possibilité d'associations qui ne sont pas données. À savoir, il nous dit que la chaîne associative n'est pas close. Qu'elle n'est pas close par la série d'images qu'on nous donne. Que les images se poursuivent hors de l'écran. Donc leur champ est absolument une fonction fondamentale du cinéma classique. Quand il découvre que... Et qui fait? Peut-être que c'est Wells, peut-être enfin c'est très... Bien sûr, il y avait des précurseurs avant. Ça, évidemment. Et peut-être que ça commence avec Wells, un cadrage sonore. Je ne sais pas avec qui ça commence. Bresson, là aussi, sera fondamental pour un cadrage sonore fondamental. Vous comprenez, le problème, c'est plus la possibilité non réalisée d'un prolongement des associations d'images hors du champ, le problème devient l'interstice entre deux cadrages. Cadrage sonore, cadrage visuel. C'est pour ça qu'il n'y a plus de hors-champ. Le hors-champ est passé dans l'interstice. Ce qui compte maintenant, c'est l'interstice entre cadrage sonore et cadrage visuel. Avec toutes les possibilités que vous voulez. Car en effet, les deux cadrages ne se correspondent pas du tout. Eustache a fait tout un film sur ce point, où le cadrage visuel et le cadrage sonore sont complètement, en apparence, sans aucun rapport. C'est-à-dire, tout est dans l'interstice. Bien, mais tout se passera par là, au sein. Voilà. Je termine enfin. Vous voyez, donc, mon troisième point, ce serait la force du dehors. Bon, c'est ce primat que prend l'interstice. L'interstice détruit l'association et l'associativité au profit vraiment d'un nouveau mode. Ça fait autre chose. Et alors, dernier point de cette pensée du dehors, pour faire le... Et puis ça sera parfait. Il faut bien qu'on retrouve tout à ce niveau. Comprenez que cette troisième mutation, elle reprend les deux autres, les aimants. Eh bien oui, les corps, et est-ce un hasard si le livre de Blanchot, L'entretien infini, commence par une introduction en italique, donc il y tient singulièrement, qui est, il faut aimer le comique de Blanchot, il a un comique très spécial, n'est-ce pas, alors que tout le monde n'y est pas forcément sensible, qui est un texte étonnant sur un dialogue entre deux fatigués. Pourquoi deux fatigués? Pourquoi les fatigués doivent-ils aller par deux, selon Blanchot? Eh bien, évidemment qu'il en faut deux, puisqu'il faut l'interstice entre les deux. Il y a un fatigué qui arrive chez un autre fatigué. Il lui dit d'entrer, il reste près de la porte, il est fatigué, et c'est aussi un homme fatigué qui l'accueille. C'est un texte admirable. La fatigue qui leur est commune ne les rapproche. Comme si la fatigue devait nous proposer la forme de vérité par excellence, celle que nous avons poursuivie sans relâche toute notre vie, mais que nous manquons nécessairement le jour où elle s'offre, précisément parce que nous sommes trop fatigués. La merveille, cette phrase, parce qu'elle nous convient admirablement. C'est la force du dehors qui donne à la pensée l'impensé. Et au moment où elle nous le donne, forcément c'est la fatigue qui nous le donne, la fatigue de notre corps qui nous donne l'impensé, mais en nous le donnant, elle nous empêche de le penser, le renforce comme impensé. Pourquoi? Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, pourtant ça ne veut pas dire qu'on est fatigué de vivre, pas du tout, encore une fois. Pardonnez-moi de vous avoir demandé de venir me voir. J'avais quelque chose à vous dire, mais à présent je me sens si fatigué que je crains de ne pouvoir m'exprimer. Vous vous sentez très fatigué? Oui, fatigué. Et cela est venu brusquement? À vrai dire, non. Et même si je me suis permis de vous appeler, c'est en raison de cette fatigue, parce qu'il me semblait qu'elle faciliterait notre entretien. J'en étais même tout à fait sûr. Et maintenant encore, j'en suis presque sûr. Seulement, je ne m'étais pas rendu compte que ce que la fatigue rend possible, la fatigue le rend difficile. Merveille. Bon, il faut vous lisez tout ça. Enfin, je vous expliquerai quand on en sera à la fin de notre... Ah, voilà. Et ça se termine, pas tout à fait, mais vers la fin du texte, il y a. Quand il parle de fatigue, il est difficile de savoir de quoi il parle. Admettons, alors écoutez bien, admettons que la fatigue rende la parole moins exacte. la pensée moins parlante, la communication plus difficile. Est-ce que par tous ces signes, l'inexactitude propre à cet état n'atteint pas une sorte de précision qui servirait finalement aussi l'exacte parole en proposant quelque chose à incommuniquer. Vous voyez, à incommuniquer, c'est-à-dire à non communiquer, à présenter comme l'incommunicable cette fatigue qui pourtant nous est commune, qui est donc l'interstice, l'intervalle entre deux fatigués, et qui nous présente et qui nous propose quelque chose à incommuniquer, c'est-à-dire la force du dehors elle-même. Et si j'en revenais à nouveau au cinéma, qu'est-ce qu'il a fait Antonioni? C'est une misère de réduire un pareil auteur, évidemment, à un drame de la compréhension ou de l'incompréhension ou de la communication. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a passé son temps à faire? Mettre l'attente et la fatigue dans le corps. Faire du corps une image tant directe. Quand il s'en prenait dès le début du néo-réalisme, quand il s'en prenait à De Sica, en disant, on avait commenté ce texte, ce très beau texte d'Antonioni, ce qu'il y a trop dans le néo-réalisme, c'est la bicyclette. C'est pas la bicyclette qui est intéressante, on lui a volé sa bicyclette, ce qui est intéressant c'est ce qui en restera dans son âme et son corps 10 ans après, la fatigue, l'usure, l'attente, l'image tant, pourquoi? Et c'est pas le drame de la communication, c'est justement pour qu'il y ait, comme dit Blanchot, c'est que la fatigue c'est ce qui nous donne quelque chose à incommuniquer, à savoir la force du dehors, qui est en même temps absolument propre, qui est en même temps propre, qui est vraiment un élément du cinéma d'Antonioni, par-delà le monde extérieur. Quelque chose qui prend les personnages par-delà le monde extérieur. Pensez à l'aventure, la personne disparue par-delà. Et par-delà le monde extérieur. Et le couple est sous le regard de ce dehors. Et ces corps fatigués, ces corps en attente, qui vont mener leur aventure. Je dis juste, donc je résume ce qu'on a fait aujourd'hui, je dis la troisième mutation, voilà où j'en suis. La troisième mutation, c'est la pensée du dehors. Cette mutation, pour la comprendre, il faut enchaîner 4 notions. L'idée, première notion, l'idée de processus, au sens de Jaspers. Deuxième notion, l'idée d'un rapport essentiel de la pensée avec un impensé ou avec une impuissance à penser. Troisième chose, l'idée d'interstice qui devient premier par rapport à l'association. Quatrième chose, la fatigue et le dehors, la fatigue du corps et la puissance du dehors. Moi je dirais, pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous voyez, on a changé d'atmosphère mais pas tellement d'éléments. La puissance du dehors, c'est la présentation directe du temps. Ce qu'on appelait l'année dernière, ce qu'on a cherché et analysé comme étant une présentation directe du temps par opposition à une représentation indirecte du temps. C'est ça, la pensée du dehors. Ou la force du dehors dans la pensée. Qu'elle passe par le corps et par la fatigue du corps, évidemment. Bon. La prochaine fois, nous verrons que les mathématiques nous donnent un moyen de penser tout ça.